L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Christian Robert, prêtre du diocèse de Cahors, doyenné de Serre-Dordogne.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Quand j'entends, comme vous, le prophète Sophonie, 7 siècles avant Jésus-Christ, dire dans notre première lecture « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. » Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Je suis habité par 2 sentiments paradoxaux à défaut d'être contradictoires. D'une part, je me dis que ça va barder pour Israël. Et d'autre part, je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et pour le coup, je repense à la prophétie du théologien Joseph Ratzinger à la radio en 1969, soit il y a plus de 55 ans. De la crise actuelle émergera l'Église de demain, une Église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une période antérieure, l'Église sera véritablement perçue comme une société de personnes volontaires, que l'on intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera amenée à faire beaucoup plus souvent appel à l'initiative de ses membres. Cela va la rendre pauvre et fera d'elle l'Église des doux. Mais quand les épreuves de cette période d'assainissement auront été surmontées, cette Église simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et affermie. Mais je suis tout aussi certain de ce qu'il va rester à la fin. Une Église non du culte politique, car celle-ci est déjà morte, mais une Église de la foi. Et dire que Sophonie, mais aussi Jérémie à la même époque, critiquaient ainsi les choix politiques des gouvernants du royaume de Juda, qui ont préféré assurer leurs arrières en faisant alliance avec les états polythéistes voisins, plutôt que de mettre leur confiance dans le Seigneur. Ils y laisseront la vie et la souveraineté de leur peuple. Mais peut-être y a-t-il confiance et confiance. Un jour, un ami m'a raconté l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille jouant ensemble à la dinette. Et la petite fille de faire le service en disant très doctement « Chez nous, on dit toujours une prière avant de manger. » Ce à quoi le petit garçon a répondu du tac au tac « Chez nous, non, jamais. Maman fait très bien la cuisine. » C'est dire si, s'en remettre à Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais peut-être n'est-ce pas le seul paradoxe des mots de la parole de Dieu en ce quatrième dimanche du temps ordinaire. Après tout, l'apôtre Paul ne nous dit-il pas dans la deuxième lecture extraite de sa première lettre aux Corinthiens « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. » C'est en même temps très confortant d'entendre cela, car ça voudrait dire que notre civilisation est un peu comme une sorte de hall de gare où ceux qui ne sont rien sont promis au bonheur. Peut-être même qu'ils les attendent de l'autre côté de la rue. Après tout, André Chouraki, dans sa version volontairement hébraïsante de la Bible, traduit non pas du grec épicurien Makarios, bienheureux, mais de l'hébreu biblique Aser, en marche. On peut donc légitimement penser que le petit reste que nous, les chrétiens, sommes en train de devenir en Europe occidentale, à un grand renfort de bashing culturel, émanant souvent de baptisés eux-mêmes, n'est pas tant voué à un grand remplacement annoncé, mais à devenir un jour l'âme du monde, évoqué par Pantène dans sa lettre à Diognète. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le monde, mais n'appartient pas au monde. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même que le monde déteste les chrétiens, sans que ceci ait fait de tort, mais parce qu'il s'oppose à ses plaisirs. Mais pour devenir cela, un nécessaire travail de conversion est absolument nécessaire. Et ce travail de conversion est inscrit en filigrane dans la lecture de ce dimanche comme une exhortation pour aujourd'hui. En effet, nous avons tous lu ou entendu les 9 mentions de « bienheureux » dans l'évangile de Matthieu. Mais qui a remarqué les 9 mentions de « le Seigneur » dans le psaume 145 en version complète, agrémenté d'un « heureux » ? Chante la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur. Heureux qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Et enfin, d'âge en âge, le Seigneur régnera. Une fois qu'on a dit cela, ça crève les yeux. Dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, Jésus ne gravit pas une montagne, quand bien même elle serait aussi belle que celle de Jean Ferrat dans sa chanson, mais la montagne, tout comme Moïse gravit non pas une, mais la montagne, pour en proclamer la loi qui scellera l'alliance de Dieu et de son peuple, basée sur la fidélité, tout comme le Christ gravit la montagne, pour proclamer la loi qui scellera la nouvelle alliance de Dieu avec son nouveau peuple, est basée, elle, sur la miséricorde, du latin « misericordia », qui désigne un cœur de pauvre. Et ce « en marche », là, ne doit rien au générique bien connu du monde. « Dallas, ton univers impitoyable, Dallas, glorifie la loi du plus fort. » Mais au générique du ciel, si paradoxal puisse-t-il paraître, heureux les pauvres de cœur, et aussi heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dès lors, nous savons ce qu'il nous reste à faire, savoir ou apprendre à passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Amen.